Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Peut-être aujourd'hui la plus jeune des femmes d'aujourd'hui que j'ai eu à interviewer dans ce podcast. Un podcast, en fait, finalement, qui devient une véritable galaxie. Pourquoi je dis ça? Eh bien, vous allez comprendre. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
De Bar, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Doua?
Ça va très bien. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation.
C'est un plaisir.
Ça fait plaisir, oui.
Alors, on s'est rencontrés il y a quelques jours et en fait, tu m'as dit une chose. Tu m'as dit, je t'écoute tous les matins et j'ai dit à ma maman, quand je vais grandir, je veux passer dans cette émission, dans ce podcast.
Oui, exactement.
Ouais. Bon, d'abord, exactement. Tu es une jeune femme aujourd'hui. Tu n'es pas toute petite. Tu es quand même une jeune femme.
Oui, je suis une jeune femme, effectivement.
Une jeune femme de 20 ans. Exactement. Alors, pourquoi justement? Qu'est-ce qui te plaît autant dans cette communauté de femmes d'aujourd'hui? Pour être honnête avec toi, Flouil, je pensais vraiment que c'était une communauté de femmes matures en âge. Je ne pensais pas du tout que c'était un espace aussi qui plairait à des jeunes filles de 20 ans. Qu'est-ce qui t'a toujours donné envie d'entrer dans ce cercle féminin?
Effectivement, j'ai toujours été inspirée par toi, Yasmine, et par les femmes que tu as apportées. J'ai toujours cherché en fait à me découvrir à travers cette émission, ça me pousse toujours hein, aujourd'hui d'écouter les histoires de ces femmes-là et de me dire qu'un jour moi aussi j'aurai quelque chose à apporter tout simplement.
Alors il y a déjà beaucoup de choses du haut de tes 20 ans justement à apporter. Il y a tellement de messages que tu veux transmettre et beaucoup de maturité dans ta voix aussi et dans ta perception aussi de femme d'aujourd'hui. Tu as une analyse très fine et très subtile de ce que c'est. Je te remercie d'avoir su saisir en fait le cœur, le socle de ce podcast. Alors, première chose, premier peut-être élément marquant de ta vie, c'est à 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors oui, première chose, c'est qu'à 11 ans, j'ai vécu un divorce très difficile. C'est le divorce de mes parents et c'était la première épreuve de ma vie, la première chose que j'ai écrite dans mon histoire, qui est toujours en cours. Et donc, ce divorce-là a été très conséquent pour moi parce que je devais sortir de l'enfance beaucoup plus tôt que prévu. Parce que l'enfance, c'est cette image, c'est cette peinture que nos parents cherchent à toujours dessiner, à mettre des couleurs dedans, mais ce n'est pas toujours évident.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est marquant.
Pourquoi toi, tu t'es sentie devoir grandir, voire même abandonner? Pourquoi? C'est une affaire d'adulte, en fait.
C'est une affaire d'adulte, mais ça a toujours ses répercussions. Même si ce n'est pas voulu, mais ça a ses répercussions sur les enfants. Hein. J'étais au cœur de la chose. J'ai dû voir des choses et écouter certaines choses qui forcément ne m'appartenaient pas, mais elles étaient là, elles m'ont touchée. Et ça a eu ses conséquences. Et je me suis dit que pour m'en sortir, il va falloir que je sorte de l'enfance, de ce monde de bisounours soi-disant et que je
passe à autre chose. Alors on va creuser par rapport à ça. Déjà une petite question, est-ce que tu es fille unique?
Non, j'ai deux grands frères.
D'accord. Mais tu étais la plus jeune de la famille à ce moment-là.
J'étais la plus jeune de la famille et pendant le divorce de mes parents, mes frères étaient déjà à l'étranger.
D'accord. Ils avaient déjà eu leur bac, ils étaient déjà partis.
Exactement.
Et en fait, quand tu dis « j'ai dû voir des choses et entendre des choses », ça me fait réagir parce que dans beaucoup d'émissions qui traitent du divorce, l'impact du divorce des parents sur les enfants, les spécialistes disent très souvent, il ne faut pas parler à côté des enfants, il ne faut pas se disputer à côté des enfants, il ne faut pas que les adultes ensuite, la famille, l'entourage, parlent de l'ex en mal et tout ça. Est-ce que tu confirmes, toi, à partir de ton expérience personnelle, ce genre de message?
Oui, effectivement, hein, il faut faire très attention parce que, mine de rien, les enfants, ils comprennent énormément de choses. On a l'impression qu'on arrive à leur cacher, qu'on arrive à un petit peu voiler les choses, mais on ne se rend pas compte parce que peut-être que dans le feu de l'action, pendant une dispute, on va voir certaines choses et l'enfant, peut-être qu'il est dans la chambre à côté et qu'il entend tout et qu'il l'absorbe. Et ça, ça a son effet sur le long terme et sur le court terme. Et voilà, effectivement, faut faire attention et il faut pas se dire qu'un enfant a une petite tête et qu'il comprend pas. Non, pas du tout. Ça, c'est l'erreur qu'on fait.
Quelles sont les choses les plus marquantes que tu aies pu entendre à ce moment-là?
Alors, honnêtement, pour répondre à ta question, Yasmine. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, après avoir guéri, mon cerveau a décidé d'effacer les
Oh,
choses
c'est
qui
très bien
m'ont.
alors, c'est très
Oui,
bien.
non, effectivement, j'en suis reconnaissante d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est des choses que je ne porte plus en moi. Donc,
Alhamdoulillah. Alhamdoulillah.
alhamdoulilah,
Alhamdoulillah. Alors, autre chose. Ce qui
oui.
s'est
Oui.
passé quelques années après son départ, c'est qu'il est parti définitivement. Ton papa est décédé quand tu avais 16 ans.
Oui, il est décédé quand j'avais 16 ans.
Et entre les 11 et 16 ans, quelle relation tu as eue avec lui?
Alors, la relation que j'ai eue avec mon père, c'est une relation très assez conflictuelle et il y avait beaucoup de non-dits entre nous et j'avais en fait en moi cette quête de lui prouver qu'il avait fait une grande erreur en abandonnant sa famille et en m'abandonnant moi. Et je l'ai toujours blâmé. J'ai toujours vu en fait d'un œil de je dirais pas de haine mais de rancœur en fait parce que je comprenais pas ses décisions, ses choix qui avaient affecté notre vie à tous, à toute la famille. Et je lui en voulais énormément et je cherchais en fait à couper le contact. Et je cherchais aussi à lui prouver que je pouvais me faire sans lui et que je pouvais réussir sans lui. Et ça influence énormément en fait la vision d'un parent parce qu'on se dit que ce parent nous a tellement fait de mal qu'on cherche à faire le maximum pour en fait ne plus être associé à lui. C'est ça. Oui.
Et quand il est parti, tu as senti quoi? Est-ce que tu as senti la douleur qu'on ressent quand on perd un parent?
Alors oui, la douleur y était, mais c'était en fait elle était associée à un sentiment d'inassouvi, d'inachevé. Parce que en fait, en alimentant cette rancœur que j'avais envers lui, c'était pour après pouvoir lui prouver que je pouvais m'accomplir sans lui, mais c'était pour avoir cette discussion d'adulte avec lui pour avoir des explications, des réponses à mes questions. Sauf que son décès, ben, c'était en fait comme un foncer droit dans un mur. Je voyais que j'allais pas avoir mes réponses, que j'allais rester comme ça, accrochée à quelque chose qui n'allait jamais se réaliser. Et ça a été extrêmement dur et
Mais
ça.
les grands de l'époque, c'est-à-dire ta maman, tes frères,
Oui.
est-ce qu'ils ont pu t'apporter les réponses que tu cherchais en fait? Comprendre
J'imagine
pourquoi il est
que.
parti, comprendre pourquoi, comprendre toutes ces choses-là.
J'imagine que eux aussi, hein, ils cherchaient réponse à leurs questions. Parce que c'était pas évident pour nous tous. Chacun a vécu son deuil à sa manière, par rapport à son vécu avec mon père, par rapport à l'image en fait qu'ils avaient de lui. Chacun cherchait à répondre à ses propres questions. Hein, on était énormément soudés à ce moment-là, surtout avec ma mère, parce que c'est une épreuve qu'on a vécue toutes les deux. Comme je vous ai dit, mes frères, ils étaient à l'étranger. Du coup, j'étais avec ma mère, mais pour elle aussi, c'était un divorce, suivi d'un décès, avec plein
De points d'interrogation.
de points d'interrogation, oui. Et Et donc,
mais vous ne savez pas pourquoi il est parti?
C'est-à-dire?
Pourquoi il a voulu divorcer?
Alors, il a voulu divorcer. En fait, c'est ma mère qui a divorcé.
D'accord.
C'est parce que il y avait beaucoup de problèmes. Il s'entendait plus. Il s'est passé énormément de choses qui ont fait que le mariage était plus possible, en
Ouais.
fait.
Donc,
Plus
en fait,
possible
il
de
n'a
vivre
pas
comme ça.
abandonné. Quand tu dis nous a abandonnés, il a voulu partir, il a voulu divorcer. Tu aurais voulu en fait qu'à ce moment-là, il arrange tout avec sa femme?
En fait, pour moi, le divorce était nécessaire. Je ne pouvais plus voir mes parents vivre comme ils étaient. Et puis, c'était par rapport à ses choix, aux décisions qu'il a prises dans sa vie. Il a fait une erreur dans sa vie donc, que je ne citerai pas.
D'accord. C'est ce qui
Oui.
a amené à ça.
C'est ce qui a amené à ça, effectivement. C'est pour ça que je dis qu'il a abandonné, c'est parce qu'il a fait ce choix
Choix.
que.
Je
Oui.
comprends, je
Oui.
comprends. Donc, 16 ans, il part. À ce moment-là, tu te sens complètement, en fait, suspendu à quelque chose, sans réponse.
Oui,
Et à ce moment-là, on met à côté, elle travaille très bien à l'école.
effectivement. Moi, j'avais trouvé ma force, en fait, dans mes études. C'était pour moi la seule manière de me dire que j'ai l'ascendant sur quelque chose. La ch seule chose que je pouvais contrôler, c'était mes études, c'était le travail, aller à l'école, exceller, faire de mon mieux, et ça portait ses fruits. Et c'était aussi pour moi une façon d'alimenter cette quête de prouver que je peux m'accomplir toute seule. Et d'ailleurs, j'ai été major de promo pendant plusieurs années. J'ai réussi à avoir une bourse pendant tout mon lycée. Et donc, c'était effectivement pour me dire que j'ai au moins l'ascendant sur quelque chose, parce que j'avais cette impression que la vie allait enfin, contre moi. Du coup, en m'accrochant à mes études, je me disais, d'accord, j'ai au moins le contrôle sur ça. J'arrive à avoir l'ascendant, tout simplement.
Alors aujourd'hui, Doha a 20 ans et elle fait
Oui.
médecine.
Elle fait médecine.
Ouais, médecine au Maroc. C'était ton premier choix?
C'était pas mon premier choix, effectivement. Donc, pour revenir sur ça, moi, donc en ayant cet ascendant-là sur mes études, pour moi, la manière de tourner la page et de laisser mon passé derrière moi, j'avais ce projet d'aller à l'étranger, finir mes études à l'étranger, sauf que le projet n'a pas marché. L'école que je voulais intégrer, ben, j'ai pas réussi le concours. Et pour moi, c'était un échec énorme qui m'a transcendée parce que, comme je vous ai dit, la seule sensation de contrôle que j'avais, c'était sur mes études. Et quand j'ai pas réussi le projet que je voulais faire, ben, pour moi, c'était un cumul d'échecs, un cumul bon, je vais utiliser un grand mot, de tragédie,
C'est comme ça que
mais
tu l'as
c'était
vécu,
le
hein?
ressenti. Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu,
Ouais,
hein.
ouais, ouais.
Il faut accepter. Mais,
À
et
ce
voilà, le
moment,
fait d'être resté, oui.
pardon, mais à ce moment-là, justement, quand tu dis c'était un cumul de tragédies, est-ce que ça t'a fait replonger dans la tristesse de la petite fille que tu étais?
Oui, effectivement, parce que le fait de rester, je dirais, obligation et non pas par choix
Choix.
et par conviction, c'était pour moi un point de non-retour. J'arrivais pas à avancer. J'en avais perdu, en fait. En fait, j'avais perdu l'ambition qui donne envie de continuer et d'avancer dans la vie. Et ça, pour un enfant, pour une jeune fille, c'est extrêmement.
Ta maman s'en est rendue compte à ce moment-là?
Oui. Ma
Oui.
maman, elle m'a accompagnée dans toutes ces épreuves. Hein. Elle était là. Mais elle aussi, elle se cherchait un peu dans tout ce qui
Ouais.
s'est passé.
Et c'est ce
Évident
qui
pour nous deux.
t'a emmené à consulter justement, à te faire accompagner? C'est cette phase-là.
Oui, c'est cette phase-là. Alors, moi, la thérapie qui m'a sauvée, et je pèse bien mes mots, c'est une thérapie qui s'est ouverte à moi, mais c'était très, très spontané. Je ne m'y attendais pas. C'était une coïncidence où un jour, ma mère a rencontré cette thérapeute, à qui je dois énormément d'ailleurs. Cette dame a changé ma vie. Et donc, c'est une thérapie. Donc, cette dame, elle m'a introduite à l'univers des énergies.
Ok.
Et oui. Et donc, elle m'a fait des nettoyages profonds. Elle a su, en fait, curer le problème de sa source. Et c'est curer ces traumatismes qu'on porte avec nous, qui ne nous appartiennent pas forcément, qui font de nous ce qu'on est, oui, certes, mais qui ne sont pas faits là pour rester stockés en nous, je dirais, toute notre vie. Et elle a pu m'en débarrasser. Et c'est ce qui m'a aidé, en fait, à dire au revoir à cette enfant traumatisée et blessée qui voyait la vie à travers un filtre en noir et blanc et qui m'a permis d'accueillir la jeune femme que je suis aujourd'hui, alhamdoulilah, et qui prend la plume pour écrire une histoire d'une vie à laquelle elle a décidé de donner une chance. Et ça, ça n'a pas de prix.
Aujourd'hui, tu t'amuses en médecine? Tu t'épanouis? Tu vas me dire, tu t'amuses, c'est un grand mot quand même, mais est-ce que tu es, finalement,
oui,
mine de rien, est-ce que tu es bien?
Oui, effectivement, moi, le fait que je sois restée au Maroc, c'est une chance d'ailleurs, et le fait d'avoir fait médecine, donc bon, même à cause du boycott, je reste convaincue de ma décision, parce que je voulais faire médecine, que ce soit à l'étranger ou au Maroc, c'était mon premier choix. Mais je suis très heureuse aujourd'hui de le faire. Je suis convaincue de la noblesse du métier, de ce que ça apporte, parce que ça relie en fait deux aspects que je cherche à explorer, et c'est la science et le côté humain. Et je trouve que la médecine est le métier le plus noble et le plus qui lie les deux, ces deux aspects-là, de la manière la plus belle.
Alors, voilà. On s'attend forcément que lorsque on a vécu des choses comme toi, le départ d'un papa, le divorce, le fait de se sentir abandonné, d'avoir vraiment perdu confiance en le père, on s'attend forcément à ce que la jeune femme ait aussi des problèmes avec les hommes. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Alors, c'est vrai, sauf que moi, j'ai eu cette chance de conscientiser le fait que je devais casser ce cycle, que je devais passer outre la chose. Et cette thérapie m'a énormément aidée à conceptualiser le fait que si je continue sur cette lancée et que je ne remédie pas à la chose, je vais chercher en mon partenaire un père. Et c'est quelque chose que ma mère m'expliquait toujours. Elle me disait quand tu grandiras et que tu auras des relations, il va falloir que tu fasses attention à ne pas chercher un père en ton partenaire. Parce que c'est inconsciemment, c'est ce qu'une femme qui a des problèmes avec son père va chercher à faire pour tout simplement essayer de déceler le personnage qui était son père à travers cet homme-là.
Mais c'est magnifique en fait qu'elle t'en parle aussi, qu'elle te donne le droit de vivre ta féminité plus tard en toute conscience.
Effectivement, hein, ma mère, c'est mon icône. C'est une personne qui me donne des cheat codes à la vie, que j'ai énormément de chance de l'avoir parce que elle me fait voir la vie pour ce qu'elle est, la réalité. Et oui, elle me donne cette chance-là de me parler de beaucoup de choses, même des tabous, pour que je puisse comprendre et avancer de la façon la plus saine possible.
Alors, il y a aussi autre chose que tu fais. En fait, tu es une étudiante en médecine. Quelle année actuellement, justement?
Je suis en troisième année.
Ok.
Troisième année de médecine.
Mais il y a aussi autre chose, c'est que tu aimes beaucoup t'exprimer avec ton corps.
Oui, effectivement. Je danse depuis l'âge de mes 9 ans.
D'accord.
Ça a aussi éveillé beaucoup de choses en moi, ma féminité. D'ailleurs, quelque chose que la petite fille en moi ne croyait pas pouvoir atteindre un jour parce que, mine de rien, j'ai grandi avec des frères, des cousins, j'ai grandi entourée de beaucoup de garçons. Et pour moi, être coquette, féminine et sensuelle, c'était pour moi inenvisageable. Et la danse a éveillé ce côté-là en moi et j'en suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui.
Inenvisageable parce que tu n'avais pas les codes ou parce que tu ne savais pas comment faire, pourquoi?
Oui, voilà, parce que je n'avais pas les codes, parce que j'avais des réflexes, disons, de garçon.
Ouais.
Oui, je ne savais pas comment m'y prendre. C'était pour moi comme si ce n'était pas dans ma nature.
Alors, j'ai une dernière question, peut-être.
Oui.
Ton ressenti vis-à-vis de ton papa, ton défunt papa, la rahmo, il a évolué, il est comment aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, mon père, j'ai réussi à lui pardonner. Parce que je me suis rendu compte que tendre encore envers quelqu'un qui n'a pas forcément eu l'ascendant sur sa vie, lui aussi, parce qu'aujourd'hui, avec du recul et de la maturité, je me rends compte que...
Beaucoup de maturité, Tbarkalalik, pour comprendre ça, justement.
Merci beaucoup, Yassine, ça me touche. Je disais qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que lui aussi, en fait, il ne savait pas forcément ce qu'il faisait. Il a subi, en quelque sorte, sa vie et ses choix. Ses choix de jeunesse. Et ça, j'arrive à avoir beaucoup d'empathie envers lui. C'est ce qui m'a permis de lui pardonner.
Oh, c'est magnifique ce que tu dis.
Oui.
Parce qu'on s'attend toujours à ce que... En fait, on a toujours l'impression que nos parents, eh bien, c'est les sages. Mais on oublie que c'est simplement des êtres humains, en fait.
Qui vivent leur vie pour la
première
fois.
Première fois, exactement, et avec les erreurs que ça comporte et tout ça. Et donc,
effectivement.
Bon, moi, ça... Enfin, je suis fière de toi, en fait, de t'en rendre compte aussi vite.
Oui,
et aussi tôt.
Beaucoup,
parce que c'est un baume au cœur qui va te permettre de voir les choses toujours de façon positive plus tard.
Oui, effectivement. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est cette paix. C'est, en fait, l'objectif, c'est toujours d'être en paix avec ce que la vie nous a fait vivre. Et ça n'a pas de prix, en fait, d'être serein et de lâcher prise.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.